Nicolas Frise, demain, c'est la première, en fait.
Exactement, c'est la première d'une reprise, puisqu'on l'a donnée il y a un an, et puis la manifestation a été interrompue par des événements graves dans la capitale. Donc on a réussi, un an plus tard, à remonter tout ça.
Et alors, comment est né ce projet ?
En fait, je suis arrivé ici il y a 2 ans et demi maintenant pour faire une résidence donc aux Archives nationales dans le nouveau site de Pierrefitte, qui est un immense bâtiment de 10 étages qui héberge à peu près 450 km d'archives depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Pour faire une résidence, c'est-à-dire faire un travail de fond sur de réflexion sur la mémoire, sur le passé, sur l'usage du passé, et pour découvrir des métiers que je connaissais pas. Donc j'ai commencé à faire des entretiens avec les salariés, avec les agents. J'ai fait d'entretiens avec 150 personnes enregistrées, retranscrites, avec des conservateurs, des chargés d'études, des techniciens, des tensionnaires, enfin des secrétaires, voilà. Et puis je me suis imprégné d'une histoire que je connaissais pas, c'est-à-dire l'histoire de France à travers les archives des gouvernements, parce que ici on est dans les archives du gouvernement, là. C'est pas les archives du peuple. Et tout d'un coup, il y a des milliers de sujets qui me sont venus à l'esprit et qui m'ont passionné et qui ont en fait progressivement alimenté toute l'œuvre.
Et alors, vous avez travaillé par exemple sur des projets à PSA dans une usine. Quelle est la grande différence que l'on rencontre entre ces deux univers ? Là, c'est plutôt un univers silencieux.
Il y a plusieurs niveaux de réponse. Effectivement, ici, d'abord, rien n'est jamais silencieux. Même le plus discret est sonore. Mais effectivement, disons, mes prises de son ont été assez limitées ici. Et c'était plutôt des prises de son des voix, des gens, de la pensée, que des prises de son des machines et des outils. Bon, ce qui est intéressant à comparer, c'est que quand je suis arrivé à PSA, les pièces automobiles, à la limite, m'intéressaient assez peu. C'est-à-dire, la voiture, c'était pas un projet sur les voitures. Alors qu'ici, le projet, c'est les archives. En fait, je suis venu dans les deux lieux pour m'intéresser au métier, au travail des gens. Je réfléchis beaucoup sur les questions des métiers. Et à PSA, évidemment, j'avais là un formidable terreau, enfin, extraordinaire de gens qui se sont confrontés à des métiers qui sont très particuliers, qui sont très difficiles, parfois répétitifs, et qui cherchent à trouver un sens à tout ça. Et puis, mais je m'intéressais assez peu à la production. Et ici, je me rends compte que les métiers sont tout aussi importants et intéressants, mais s'effacent, s'estompent derrière la production qui, elle, est le travail d'archiviste. Par exemple, j'ai découvert très vite qu'il y avait deux catégories de personnel, ceux qui s'occupaient des contenus, c'est-à-dire les chargés documentaires, les chargés d'études, les conservateurs, et ceux qui s'occupaient des contenants, c'est-à-dire ceux qui faisaient les estampillages, qui faisaient les mises en boîte, les étiquetages, etc. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait une sorte de même hiérarchie sociale entre eux, et que ceux qui s'occupent des contenants étaient pas toujours, on leur donnait pas toujours la parole. Enfin, ils se sentaient pas toujours utiles. Enfin, bon. Donc, c'était intéressant. Voilà, je retrouvais des questions sociales. Bon, après, il y a eu des questions un peu plus historiques, mais je me suis amusé à poser des questions extrêmement iconoclastes, comme par exemple, à quoi sert le passé? C'est une question auquel assez peu de gens finalement savent répondre, parce que, à part le stéréotype, ça sert à pas reproduire les erreurs. Voilà. En fait, pas vrai, parce que les erreurs se reproduisent, parce que d'abord, on les connaît pas. Et ensuite, les situations sont toutes différentes. À quoi sert le passé? C'est une vraie question. Alors j'ai rencontré par exemple deux personnes un peu contradictoires, c'est Michelet bon, qui dit il faut réveiller les morts, il faut écouter ce qu'ils nous disent, il faut redonner la parole aux morts, donc je m'en sers dans un des textes, et puis l'archéologue Laurent Olivier qui dit non, le passé n'existe pas, c'est qu'il n'y a que du présent, et en fait le passé c'est une construction intellectuelle, en fait tout est au présent, aujourd'hui cette table par exemple sur laquelle on est appuyé, elle est passée, elle a été faite il y a je sais pas 1 an, 2 ans, 10 ans, elle est ancienne, mais pour nous, elle n'existe que parce qu'on s'appuie dessus, elle ne connaît que du présent. Et l'archéologue dit même, quand je sors un pot de terre, bien sûr je sais parce que j'ai appris, j'ai une formation scientifique qu'il vient de l'école de l'époque carolingienne, n'empêche qu'il appartient à mon présent. Et c'est moi qui vais décider aujourd'hui quelle va être la succession de son présent. C'est-à-dire, est-ce que je le mets dans un musée? Est-ce que je le réenfourne dans la terre parce que j'en ai déjà trop? Est-ce que je le porte dans un laboratoire pour l'analyser, etc. Donc cette question du passé, du présent, du futur était très passionnante. Je l'ai découvert un peu sans prévenir, c'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, je savais pas que tout ça allait me tomber dessus, en fait, pour être honnête.
Oui, ce qu'il dit, par exemple, dans un texte, nos choses nous survivront longtemps après la fin. Alors, on a l'impression qu'il se projette aussi dans la notion de l'archive, comme une archive qui serait presque une archive du futur.
Oui, moi je me suis même amusé à dire que le début ne va jamais à la fin, et il va toujours à un début, quoi. Mais en fait, il n'y a jamais de fin. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans l'archive, c'est que tout se recouvre, et même d'ailleurs après on a la notion de palimpseste, c'est-à-dire que les archives se réeffacent et se réécrivent par-dessus, etc. Enfin, tout ça s'empile. Je suis aussi amusé à imaginer la vie d'une archive. Déjà, elle a échappé à l'élimination. Il y a un archiviste dans un ministère qui a décidé de jeter 90%, parce que c'est ce qui se passe, hein, et les 10% sont élus, on va dire. Parce que, on sait pas, c'est intéressant, bon, c'est une éthique du métier. Et donc l'archive qui a échappé à la poubelle est transportée dans un camion, elle arrive ici, on la regarde. regarde de près pour voir si elle n'a pas des champignons, des moisissures, etc. Alors, elle est impatiente, elle ne sait pas ce qui va lui arriver, et puis elle est acheminée dans un magasin. Puis là, elle est enfermée dans une immense boîte à 12 degrés, et elle attend. Et elle va attendre. Elle ne sait pas combien de temps. Et quand elle entend la porte qui s'ouvre, elle se dit, est-ce que c'est pour moi? C'est pour moi, mais il y a 1,5 km d'archives dans ce magasin. Donc elle entend les pas qui se rapprochent, et elle se demande, est-ce que je vais être lu? Est-ce que quelqu'un va m'ouvrir la boîte? Est-ce que quelqu'un va me lire? Et puis elle se rend compte que c'est la boîte d'à côté, et que bon, elle sera peut-être lue dans 50 ans, dans 100 ans. Je trouve ça assez émouvant, cette histoire de papier qu'on garde, qui ont en fait individuellement assez peu de valeur, et dont la valeur naît du rassemblement de tous les papiers. En fait, ce que les historiens expliquent bien, c'est qu'une archive, un document, c'est en soi aucune information. Mais quand vous la rassemblez avec d'autres informations, tout d'un coup naît le sens. L'historien qui fabrique le sens.
Ça m'évoque, bon, bien sûr, Michelet qui parle comme ça de la mémoire, refaire revivre les morts, des morts qui n'étaient pas les grands morts, mais des morts, et qu'on retrouve dans l'archive.
Absolument, ben, l'archive est pleine de morts. Enfin, elle fait parler les morts, elle les fait crier même. Et dès qu'on ouvre n'importe quel carton ici, enfin, j'en ai ouvert beaucoup, c'est très saisissant. D'abord parce que vous avez immédiatement d'ailleurs une impression de fini, en fait, parce que le papier est usé, les écritures sont très très particulières. En fait, tout ça, c'est plus d'aujourd'hui. On voit tout de suite que ça a une date. Hein. Et puis tout d'un coup, vous lisez quelque chose qui provoque une réelle émotion. Alors, il y en a qui fétichisent pas mal les archives qui viennent des gens célèbres. Hein, quand on voit la signature de Napoléon ou une lettre de Louis XVI, je sais pas quoi, alors on est là en train de se prosterner. Bon, moi, ça m'a intéressé assez peu. Je me suis même demandé pourquoi on accordait tant de crédit à la main, enfin à l'écriture de gens célèbres. Parce que quand on voit l'écriture des enfants il y a 80 ans à qui le gouvernement avait demandé à une époque de donner leurs vœux, enfin il y avait eu des concours dans l'éducation nationale il y a très très longtemps, et on voit ces enfants qui écrivent de quoi ils rêvent pour plus tard. Moi, je trouve que ça a autant d'émotion que la signature de Napoléon, mais bon, enfin, on fait vivre les anciens, quoi. Enfin, voilà.
Je retiens par exemple d'un texte d'Arlette Farge, qui est une archiviste, comment presque dire, historienne archiviste. Elle avait travaillé sur les gens qui étaient morts sur le halage, les routes de halage qui bordent les rivières. Et là, elle s'est intéressée aux vides poches. On avait vidé les poches et on avait conservé aux archives. Elle a été la première femme, ou la première personne, qui faisait revivre ces éléments d'une histoire d'une personne.
Et alors en plus, effectivement, alors Arlette Farge, moi, je m'en suis beaucoup imprégné. Et justement, elle montre bien comment toutes des petites choses qui sont l'air de rien. Elle dit, en fait, il faut rester longtemps dans la clairière pour commencer à voir l'oreille. Elle dit, en fait, il faut rester longtemps devant l'archive et quelque chose sort. Et effectivement, ces petits objets qui sont anodins, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, quand on les rassemble, quand on les met avec d'autres choses, avec des choses de l'époque, etc., et puis qu'on les regarde longtemps, il y a du sens qui sort. Et de la sensation, bien sûr.